Les nuits de France Culture jusqu'à 6h du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. Une heure avec Gabriel Matzneff. L'émission fut diffusée en 1966. Elle se compose toujours évidemment de deux parties. La première est un entretien entre le producteur, Pierre Lost, et l'invité, Gabriel Matzneff donc, qui venait de publier un roman, L'Archimandrite. Dans la seconde partie, Gabriel Matzneff était toujours présent, l'évocation de son roman aussi, mais un nouvel interlocuteur intervenait, Henri de Monterland. Les débuts dans l'écriture, journaliste, littéraire, l'orthodoxie, l'émigration, des critiques sur le nouveau roman, tout cela est au menu de cet entretien. Et aussi, le héros du roman de Gabriel Matzneff, qui, selon Henri de Monterland, est un personnage roué ou libertin, mais pas seulement cela, bien sûr. Henri de Monterland, qui ne croit pas au diable, Gabriel Matzneff, qui croirait plutôt en l'existence du diable qu'à celle de Dieu, « Il n'y a que Mauriac pour croire au diable », s'exclamait Henri de Monterland. Première diffusion sur France Culture, le 30 novembre 1966.
Une heure avec, une émission de Pierre Lost. Aujourd'hui, Henri de Monterland et Gabriel Matzneff.
Gabriel Matzneff, vous venez de publier, aux éditions de la Table Ronde, votre deuxième volume, un roman intitulé L'Archimandrite. C'est un livre qui fait beaucoup parler de lui. Mais avant de parler, nous aussi, de l'Archimandrite, je voudrais vous demander d'évoquer le Gabriel Matzneff de ses 18 ans. Quelles étaient ses ambitions ?
Vous savez, quand j'ai eu 18 ans, je venais de terminer mes deux bachots et je suis rentré à la Sorbonne en propédeutique parce que j'étais quelqu'un de très paresseux déjà et j'avais entendu dire qu'en propédeutique on ne faisait rien, ce qui est la vérité. Et j'ai passé comme ça des années très agréables à la Sorbonne, très occupé à aller dans les cinémas de la rue Champollion et à siroter des Vichy fraises aux terrasses des bistrots du quartier, comme tous les étudiants de toutes les époques. Mais, mon Dieu, je m'intéressais déjà beaucoup à la chose littéraire. Et en fait, déjà à l'époque, je voulais écrire et j'écrivais pour moi. Et j'ai même très tôt commencé à donner quelques papiers littéraires à des journaux, étant déjà encore étudiant.
Et quelles étaient vos admirations ?
Littéraires, vous voulez dire ?
Littéraires.
Lorsque j'étais très jeune... Je sais pas, je n'étais pas en fait un très très grand liseur. En fait, j'ai tout de suite beaucoup aimé les anciens, par exemple, les romains. J'étais très attaché aux romains dès mon enfance, dès la classe de sixième, on les découvre, n'est-ce pas? Et alors, je dois dire que j'ai, par exemple, un homme comme Sénèque m'a toujours beaucoup attaché. Mais, en fait, mes grandes admirations littéraires jusqu'à 15 ans, c'était Les Trois Mousquetaires, ainsi que 20 ans après, que je connaissais et que je connais encore à peu près par cœur, et Don Quichotte, que j'avais beaucoup aimé, et que j'avais lu dans une traduction abrégée de Florian. Mais c'est surtout à partir de 16 ans que j'ai commencé à lire d'une manière un peu plus, 16-17 ans, plus sérieuse, et mes admirations, c'était, à l'époque, Byron, Dostoïevski, Nietzsche, Monterland, après un peu plus tard Schopenhauer, à 20 ans.
Vous nous avez dit tout à l'heure que très très jeune, vous aviez débuté dans le journalisme. Que faisiez-vous, de la critique ?
Bon, oui, un petit peu. Enfin, j'envoyais quelques papiers, comme ça, une fois tous les trois mois. Enfin, c'était pas vraiment faire du journalisme. En fait, le journalisme, j'ai commencé à faire sérieusement du journalisme en 1962.
Où avez-vous débuté ?
Je collaborais à la revue La Table Ronde, qui était animée par des gens comme Stanislas Fumet, Jacques de Bourbon-Busset, quelques autres, je ne sais pas ce qu'elle est devenue à présent. Et également à Combat. J'ai commencé à écrire régulièrement en 1962 à Combat. Oui, j'ai tenu d'ailleurs 63 à 65. J'ai tenu la chronique télévision, je dirigeais la page télévision. Et ce qui fait que j'étais un habitué de cette maison de l'ORTF, n'est-ce pas?
Voulez-vous nous parler de votre premier livre, Le Défi, qui était un recueil d'articles?
C'était un recueil de chroniques et d'essais que j'ai publié en mars 1965, il y a donc un an et demi. Et c'était un recueil de chroniques parce que mon éditeur, enfin Roland Lodenbach, m'avait conseillé de commencer par... c'est une idée de lui d'ailleurs, autrement j'aurais peut-être commencé par le roman auquel je pensais. Puis finalement, plutôt que de commencer, tout le monde commence par un premier roman. J'ai trouvé peut-être plus amusant de commencer par un recueil d'essais, dont certaines chroniques qui avaient déjà paru dans la presse, et d'autres, les essais les plus longs, notamment un essai sur le nihilisme russe et un essai sur le suicide chez les Romains, étaient absolument inédits. Et alors j'ai fait ce premier livre Ça m'a fait très plaisir d'avoir ce premier livre en librairie.
Que vous a apporté ce premier livre?
Écoutez, d'abord, comme je vous le disais, une sorte de satisfaction. Voir son nom imprimé dans les journaux, tout ça, au début, ça fait plaisir, puis ensuite, on n'y pense plus. Mais la première fois qu'on voit un livre, qu'on a fait entièrement, c'est comme un petit objet, une petite brique. C'est assez impressionnant, on a l'impression que une sorte de joie de la paternité. Et puis, je crois pour un jeune journaliste, écrivain, un premier livre, c'est une chose importante, plus peut-être que des articles. Tout le monde ne lit pas les journaux que vous écrivez, et puis les articles, c'est assez éphémère. Un livre, c'est peut-être aussi éphémère, mais enfin, on a l'impression d'une certaine pérennité, quand même.
Il y a quelques instants, au début de cet entretien, je disais que vous aviez publié, il y a quelques semaines, L'Archimandrite, un livre dont on a beaucoup parlé. Quel a été votre souci lorsque vous avez entrepris d'écrire L'Archimandrite ?
L'archimandrite, il faudrait peut-être d'abord, je ne sais pas si tous nos auditeurs savent qui est un archimandrite. En fait, il y a beaucoup de gens qui croient qu'il s'agit d'une maladie inavouable ou une chose bizarre. En fait, un archimandrite, c'est théoriquement un supérieur de monastère orthodoxe, dans l'église orthodoxe. Mais en fait, surtout dans les milieux orthodoxes en Occident, qui sont minoritaires, c'est un titre quasiment honorifique qui correspond un peu au monsignor de l'église romaine. N'est-ce pas, un moine qui est nommé archimandrite peut s'attendre, si tout se passe bien pour lui, d'être sacré évêque quelques années après, n'est-ce pas? C'est une sorte de grade intermédiaire.
Vous-même, vous êtes orthodoxe?
C'est ça, oui, je suis orthodoxe. Et n'est-ce pas, l'orthodoxie se trouve tout à fait au centre de ce roman.
Est-ce que vous voudriez nous dire un mot de l'orthodoxie en France?
D'abord, vous savez, les orthodoxes sont minoritaires, environ 200 000. À l'origine, la plupart des orthodoxes étaient des étrangers, des émigrations venues de Grèce au siècle dernier avec les massacres de Turquie, etc. Il y a une forte communauté grecque implantée par exemple à Marseille, dans le Midi. Et puis évidemment, les grandes émigrations politiques du XXe siècle et principalement l'émigration russe d'après la révolution de 1917. Et moi, je suis moi-même, n'est-ce pas, d'origine russe. Mais bientôt, enfin, avec les années qui se sont passées, il y a eu des nouvelles générations. Moi-même, j'appartiens à la troisième génération issue de l'émigration, puisque ce sont mes grands-parents qui ont émigré après la Révolution. Eh bien, nous sommes, pour employer une formule que tout le monde connaît bien maintenant, n'est-ce pas, les jeunes orthodoxes, même d'origine russe ou d'origine grecque, se considèrent comme des Français à part entière. Et ce qu'il fait... qu'il y a maintenant une église orthodoxe en France, qui est une communauté religieuse certes minoritaire par rapport à l'église catholique ou aux protestants, ou même, je suppose, à la communauté israélite, mais qui est quand même assez influente et active, et qui certainement, dans les années à venir, continuera de s'épanouir.
L'archimandrite est accueilli avec une très grande faveur par le public actuellement. Mais est-ce que les milieux orthodoxes l'accueillent également avec la même faveur?
Je sais qu'il y a certains orthodoxes, notamment dans certains milieux ecclésiastiques, qui sont extrêmement choqués par ce livre, car ils ont l'impression que j'y ai manipulé le sacré avec trop de familiarité et que j'ai fait descendre l'orthodoxie sur la place publique, et qu'il y a là un mélange du profane et du sacré qui les choque. et ils préfèrent voir l'orthodoxie traitée dans des ouvrages de théologie ou des ouvrages d'histoire de l'Église. Mais je sais, je peux le dire simplement, que j'ai reçu également des témoignages tout à fait... Enfin, c'est pas à moi de dire qu'ils étaient enthousiastes, mais enfin, je veux dire, très positifs et très chaleureux d'autres orthodoxes, et dont des moindres, je crois. Et en fait, voyez-vous, je ne crois pas que le reproche que certains me font est justifié, car mon livre n'est à aucun moment un livre sociologique. Je veux dire, un critique catholique a écrit qu'il s'agissait d'un document unique sur la vie des communautés orthodoxes en France. Peut-être, mais en fait... Je n'ai pas voulu du tout faire la sociologie, je n'ai pas voulu faire pour l'Église orthodoxe ce que tel de mes aînés, et écrivain un scandale fameux, a fait pour l'Église romaine ou pour les Juifs récemment. Moi, ça ne m'intéresse pas. Les problèmes qui m'intéressent sont les problèmes psychologiques, métaphysiques, et le cadre, et si le cadre de ce roman est en partie l'Église orthodoxe, et le milieu orthodoxe parisien, c'est uniquement parce que mon héros, enfin le personnage principal de mon livre, est un garçon français d'origine russe, orthodoxe.
Vous avez placé en exergue de l'archimandrite ces deux vers d'Aragon. Il me reste si peu de temps pour aller au bout de moi-même.
Oui, ce sont deux vers d'Aragon qui sont extraits dans ce recueil de poèmes Elsa que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'admiration pour Aragon poète. Et ces deux vers sont, disons, applicables à ce personnage principal dont je vous parlais tout à l'heure, Cyril Razvatchev, qui est un garçon dont, comment dirais-je, son destin, sa destinée est la trame du livre. Et ces deux vers résument l'esprit de cette destinée.
De Béatrice, qui est l'héroïne principale, Cyril déclare qu'elle est belle comme un ange et bête comme un panier.
En créant ce personnage, j'ai décrit un type de fille assez couronne de nos jours, très belle, très désirable, très... Enfin, comme ça, mais qui n'ont pas grand-chose dans la tête. Toutes nos charmantes compagnes qui sont tous les soirs chez Castel ou ailleurs, qui dansent le jerk, enfin, toutes ces choses passionnantes, sont des filles ravissantes, mais sur un plan, disons, humain ou spirituel, enfin, elles n'apportent pas grand-chose. Et en fait, ce personnage-là, en l'occurrence, est très décevant, n'est-ce pas ?
Une échelle qui ne mène nulle part, quel beau symbole de ma vie, pense Cyril.
Oui, Cyril Razvatchev est en fait un garçon qui n'arrive pas à se raccrocher à la vie, qui tout glisse entre les doigts. Voyez-vous, tout à l'heure nous parlions de la réaction négative de certains orthodoxes. Ce qui les a choqués, c'est essentiellement ce personnage de Razvatchev. Mais dans mon esprit, il y a quand même, je leur demande à ces orthodoxes qui ont été choqués, de rentrer un instant dans la logique de la création romanesque. Razvatchev est pour moi un corrupteur, un négateur, et je le fais agir comme un corrupteur et comme un négateur. Il n'y a pas là en soi d'élément de scandale. S'il se réfléchit sur cette échelle qui ne mène nulle part, c'est qu'en fait, cette vie vide, cette vie... de dispersion le conduit au désespoir et finalement le livre finit très mal.
Ce qui pourrait les choquer, ça aurait pu être le père Spiridon qui lui a un côté un peu ridicule et c'est pas ça qui les choque.
Oui, le père Spiridon, il y a deux personnages de prêtres qui sont deux prêtres orthodoxes, qui sont d'ailleurs tous les deux des Français de souche. L'un, le père Spiridon Boulard, l'archimandrite qui donne son titre à mon roman, et l'autre, le père Philippe Carderie, qui est un ancien marxiste devenu orthodoxe et même prêtre orthodoxe. Et ces deux prêtres, je crois, sont complémentaires. Le père Carderie, pour moi, c'est le prêtre tel que je... Je ne dirais pas tel que je le rêve, mais enfin, pour moi, c'est le prêtre idéal. C'est lui qui apporte toujours la réponse orthodoxe à la vie blasphématoire de Razvatchev. C'est presque un type de saint, pour moi, à mes yeux. Le père Boulard, mon Dieu, c'est un... Quelqu'un dit de lui qu'il est un eunuque spirituel. Eh bien, c'est cela, n'est-ce pas ? C'est un gros bouffon qui s'est épanoui dans le milieu ecclésiastique comme un gros champignon qui a des ambitions et il passerait sur le ventre de sa mère pour être évêque, n'est-ce pas ? Mais c'est un personnage c'est un personnage de bouffon, enfin, haut en couleur et qui prête plutôt à sourire qu'à s'indigner.
Et quel a été votre souci majeur lorsque vous avez écrit l'archimandrite ?
Écoutez, sans doute me délivrer de certaines choses que je ressentais profondément. C'est difficile à dire. Vous savez, il y a une sorte de nécessité intérieure à la création romanesque. Il fallait que j'écrive ce livre, qui n'est d'ailleurs pas, quoi qu'on en ait dit et quoi qu'on en dise encore, un livre autobiographique. Si vous voulez, tous les romans, n'est-ce pas ? Ou bien on fait des romans oniriques, comme Julien Gracq ou Lise de Harme. Alors, bon, alors ça se passe dans un monde irréel. Mais si l'on appartient à une certaine tradition réaliste, n'est-ce pas ? On puisse obligatoirement, dans sa propre expérience, non celle du voisin, et à ce titre-là, tous les romans sont autobiographiques. Mais là, en l'occurrence, il y a là-dessus, à partir d'un noyau autobiographique, il y a tout un élément de transposition, d'amalgame, enfin de création. On ne peut absolument pas identifier l'auteur à tel ou tel personnage. L'auteur est tous ses personnages, ou si préféré, il n'est aucun d'eux. Mais enfin, dans l'ensemble, le roman exprime des problèmes, une certaine dualité, un certain déchirement que je ressentais profondément et que j'ai voulu exprimer.
Et lorsque vous écrivez, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Est-ce que ce sont des difficultés d'écriture ou est-ce que ce sont des difficultés de conception ?
Ce sont surtout des difficultés de se mettre au travail. Moi, je trouve toujours d'excellentes raisons pour ne pas travailler. Et c'est pour ça d'ailleurs que je peux difficilement travailler à Paris parce qu'il y a toujours, des choses à faire. Agréable ou pas agréable, mais enfin il y a toujours un tas de prétextes, on peut toujours se trouver un tas de prétextes pour ne pas travailler, pour ne pas rester seul, s'enfermer dans une chambre et se mettre à gratter sa page blanche. Tandis qu'à la campagne ou bien à l'étranger, dans une chambre d'hôtel, dans une ville où on ne connaît personne, eh bien là on ne peut rien faire d'autre que travailler, et là je peux très bien travailler 15 heures par jour, et même plus, enfin ça ne me dérange pas.
Et lorsque vous travaillez, avez-vous des manies ?
Oui, enfin des manies, c'est un bien grand mot, je fais comme... C'est un parrainage illustre, n'est-ce pas ? Je fais comme Montaigne, qui disait que ses pensées ne marchaient si ses jambes ne s'agitaient. Et moi, je marche de long en large, et comme ça, j'ai l'impression que les pensées viennent mieux, n'est-ce pas ?
Et lorsque vous écrivez, pour qui écrivez-vous ?
Vous savez, comme je vous le disais, au départ, il y a une sorte de nécessité intérieure, mais je pense qu'effectivement, l'on écrit un peu pour être lu. Mais ça, ce n'est pas sûr, je ne sais pas. Par exemple, cet été, j'ai rencontré en Russie, je me trouvais en Russie et j'ai rencontré un tas de garçons de mon âge, ou même plus jeunes que moi, des jeunes intellectuels soviétiques, qui, pour des raisons, disons, idéologiques, en l'occurrence des jeunes intellectuels chrétiens, ne peuvent pas publier. Et ce sont des garçons qui écrivent beaucoup, mais qui gardent leurs manuscrits dans leur tiroir, parce qu'ils n'ont pas le droit d'exprimer les idées qu'ils expriment, et alors ils font circuler des copies manuscrites, etc. Et je leur ai demandé, mais est-ce que ça ne vous décourage pas d'écrire en sachant que vous ne pourrez pas être publié et que peut-être vous resterez encore 20 ans sans pouvoir publier ? Eh bien non, évidemment, ils préféreraient être publiés. D'ailleurs, c'est pour ça que Sinyavsky, n'est-ce pas, a envoyé son manuscrit à l'étranger. C'est pour être imprimé, pour qu'on sache qu'il écrit. Mais ces garçons que j'ai rencontrés, en l'occurrence cet été, non, continuent d'écrire et espèrent un jour, évidemment, pouvoir être publiés. Mais enfin, lorsqu'il y a une sorte de nécessité intérieure, on écrit même si on était tout seul sur une île déserte, je crois.
Pour vous, à quel moment un roman est-il fini ?
Si on a écrit avec un certain plan, eh bien on sait à peu près, lorsqu'on arrive au bout de ce plan, une certaine structure romanesque, je ne sais pas, moi, alors une fois que la bergère a épousé le prince, ou bien qu'on sait des choses extraordinaires qui se passent dans les romans, eh bien on sait que c'est fini et on met le mot fin. Mais en fait, je crois que la fin arrive lorsque, disons, les personnages sont un peu au bout de leur destin. Alors on sait que ça doit finir. Parce que les personnages, ensuite, très vite prennent leur propre liberté. On ne les mène pas comme on veut.
Le nouveau roman, qu'en pensez-vous ?
Bon, je dois dire que j'en pense pas grand-chose parce que je n'ai jamais pu... Enfin, je ne devrais pas dire ça. Enfin, je dois dire que ça m'embête un petit peu. J'ai certains de mes amis et éminents confrères qui font du nouveau roman. Et qui écrivent dans des revues très sérieuses, et qui écrivent des livres, enfin, et qui m'envoient. Alors, comme ils me les envoient, je fais l'effort de les lire, ne serait-ce que pour pouvoir leur en parler lorsque je les rencontre. Mais je dois dire que j'ai du mal, parce que moi, ça m'ennuie beaucoup. Je crois qu'il y a là une espèce de jeu purement, je dirais pas intellectuel, mais je trouve ça très vide. Ils tricotent, n'est-ce pas ? Ils font du tricot avec les mots, sur un fond de néant. Enfin, ils évitent toutes les questions importantes. Pour eux, la littérature n'est pas une chose brûlante. Ce sont des jeux purement verbaux. Encore s'ils écrivaient très bien. Moi, effectivement, je crois que d'abord, un bon écrivain, c'est un monsieur qui écrit bien. Mais je crois que pour un ou deux d'entre eux, de toute cette école, il y en a sans doute un ou deux qui sont des hommes de grand talent. Mais c'est la porte ouverte à l'imposture, n'est-ce pas ? De même que, par exemple, reprenez Céline. Mais Céline était un homme de grand talent. Mais alors, ce style, n'est-ce pas, célinien, a fait croire à un tas de gens qui n'avaient aucun talent qu'il suffisait d'écrire n'importe quoi en mettant des points d'exclamation entre les deux mots et qu'on était devenu un petit génie. Eh bien, pour le nouveau roman, c'est la même chose. Pour un Rogrillet, combien d'épigones impuissants.
Dans quelle ligne et sur quel plan classez-vous l'Archimandrite ?
Vous savez, ça m'est difficile à moi de dire exactement ce qu'est mon livre. Mais je dois dire, j'étais un peu surpris par certains critiques. C'était d'ailleurs très flatteur et j'en étais, si vous voulez, en soi très content. Ils ont cité des noms comme ceux de, par exemple, Stendhal ou Monterland, Drieu-La Rochelle. D'ailleurs, Monterland lui-même a parlé de la parenté de ce livre avec son œuvre. Moi, je dois dire que ça me surprend un peu, car dans mon esprit, je pensais que les critiques allaient tout de suite citer des noms de romanciers chrétiens, et en l'occurrence, soit catholiques, soit protestants, soit orthodoxes, mais alors des étrangers. Je pensais que les critiques allaient tout de suite dire... que ce roman, je ne parle pas de la qualité, je parle simplement de la famille spirituelle, donc on ne croit pas prétentieux, je parle simplement d'une certaine famille spirituelle, que ce roman allait se placer dans une ligne qui va, mettons, de Dostoïevski et Julien Green. Or, pour l'instant, les critiques, je parle des critiques littéraires, ont un peu, dans leur analyse, pas escamoté, mais enfin laissé de côté la part proprement des problèmes religieux ou théologiques qui sont pour moi essentiels. Ils ont vu surtout, peut-être certains ont été surtout attachés aux pages érotique, parce que donc le personnage principal étant un garçon, personnage de blasphémateur et de débauché, il y a évidemment beaucoup de coucheries dans ce livre, mais ces coucheries, d'après moi, justement, enfin, c'est la dualité du personnage, sa sensualité, ainsi que son attachement à l'Église qui font le roman, et cette espèce de lutte intérieure, ou cette absence de lutte, ce refus de choisir, qui l'amène là où il est amené à la fin. Mais enfin, pour moi, c'est un roman qui se place dans cette tradition du roman chrétien, incontestablement.
Et en tout cas, et je crois qu'il faut le signaler, c'est le premier roman français qui traite de l'orthodoxie.
Oui, c'est le premier roman français où l'orthodoxie est présentée comme une réalité métaphysique et non pas folklorique. Il y a eu certainement des romans, par exemple, sur l'immigration russe. Et on voit, l'orthodoxie sans doute apparaît aussi, mais comme un élément folklorique et étranger. Moi, j'ai horreur du folklore, surtout en ce qui concerne l'Église. Pour moi, l'orthodoxie, c'est pas un folklore byzantino-grec ou russo-grec ou je ne sais quoi. C'est l'Église, c'est le Christ incarné dans la société du XXe siècle. Et c'est tout, n'est-ce pas ? Je dis l'orthodoxie, pour moi, je pourrais aussi bien dire le christianisme. Pour moi, ces deux mots sont synonymes, n'est-ce pas ?
Voudriez-vous évoquer un instant les pages les plus étranges de l'Archimandrite, qui sont le rêve de Spyridon?
Oui, à un certain moment, l'Archimandrite Spyridon Boulard est parti à Moscou, persuadé que là-bas on allait le sacré évêque, parce qu'il dépend de la juridiction du patriarcat de Moscou. En fait, là-bas, on lui fait comprendre que sa brigue et que ses ambitions déplaisent, et on le renvoie sans sacre à Paris, rejoindre ses paroissiens. Il est très triste, très, très déçu, et il rentre chez lui et à un moment, il s'endort. Il est très malheureux. Il se rend compte du néant qu'est sa vie et il s'endort. Et il rêve qu'il est pape, n'est-ce pas ? Il rêve, le rêve est assez long, il rêve qu'il se retrouve à Saint-Pierre de Rome et qu'il voit que c'est lui le nouveau pape après la mort du pape actuel. Et dans ce rêve, le père Boulard est accueilli, n'est-ce pas ? Et dans un aéropage international, il est entouré de tous les chefs d'État et il déclare notamment « Roi de la Terre, vous avez exaucé le vœu de mon prédécesseur Jean XXIII qui dans son encyclique Pacem in Terris souhaitait la constitution d'une autorité publique de compétence mondiale. Vous, les conducteurs de peuple, vous m'avez élu président de la République universelle. Vous, les athées, vous avez plié le genou devant le pape de Rome et vous lui avez dit « Bénissez-nous, maître ». Eh bien, je bénis tous et tout. Je bénis la guerre et la paix. Je bénis les sages femmes et les filles qui ne sont pas sages. Je bénis les pays riches et les pays où l'on meurt de faim. Je bénis les orthodoxes et les schismatiques. Je bénis les chrétiens et les non-chrétiens. Je bénis tous ceux qui attendent de moi une parole de consolation et aussi tous ceux qui ne l'attendent pas. » Oui, enfin, n'est-ce pas, le rêve est très long et se développe comme cela. Je veux dire, j'ai voulu critiquer une certaine attitude du christianisme et des gens qui ne sont pas chrétiens à l'égard du christianisme. deux attitudes qui m'exaspèrent. D'abord, le côté bénisseur d'un certain christianisme qui se croit obligé d'avoir une opinion sur tout, sur la contraception, sur la guerre atomique, etc. Vous comprenez, finalement, tout le monde sait très bien que... Je ne sais pas, moi je trouve ça très inefficace et un peu démagogique. Et puis surtout, ce qui m'agace, c'est le respect, et ça c'est dit très longuement dans mon rêve, c'est expliqué, c'est disséqué, le respect affecté que des gens qui ne croient ni en Dieu ni en diable se croient obligés de témoigner à l'Église et à ses chefs. Vous comprenez ? Ou bien on croit que le Christ est ressuscité, ou bien on n'y croit pas. Mais si on croit pas que le Christ est ressuscité, bien alors l'Église n'est rien du tout, et le pape c'est rien du tout, et le patriarche de Moscou c'est encore moins. Comprenez, il n'y a pas... Chaque fois, moi je connais, j'ai certains confrères qui sont des athées convaincus et sans aucun problème, qui se foutent de l'Église éperdument, mais dès qu'ils trempent leurs plumes pour parler du pape, ils la trempent dans de l'eau bénite, et alors on parle le Saint-Père, etc., etc. Tout le délire journalistique qui entourait le voyage à l'ONU, ou bien... C'est ça quand je proteste, c'est cette imposture. Si on croit vraiment à la résurrection, au mystère de l'Église, alors bon, très bien. Mais si on n'y croit pas, eh bien, ça n'a rien d'intéressant. Alors il y a toute une imposture. Enfin, c'est une imposture parmi beaucoup d'autres, notre temps est celui de l'imposture. Mais celle-là, c'en est une que je dénonce dans mon rêve de Spyridon.
Отца и Сына, и Духа Святого.
Cher Gabriel Matzneff, après cet extrait de chant orthodoxe, nous avons rendez-vous chez Henri de Monterlan. Monsieur de Monterlan, quelles ont été vos réactions à la lecture de l'Archimandrite ?
Eh bien, je connais Matzneff depuis une dizaine d'années, puisque la façon dont ça m'a contacté, comme on dit aujourd'hui, était le projet d'un livre sur moi. Et il débute dans le roman d'une façon qu'on ne pouvait pas prévoir, étant donné que nous le connaissions comme journaliste, nous le connaissions comme essayiste. Il a écrit un premier livre qui s'appelle Le Défi, qui a paru il y a un an, mais tout ça ne prouve pas qu'on est romancier. Or, il est évidemment romancier. Il a la première vertu du romancier, qui est qu'il attache les gens, qu'on se prend à ses personnages, et qu'il a ce qu'on appelle en peinture de la patte, c'est-à-dire qu'il est un écrivain, qu'il exprime les choses d'une façon originale, saisissante, et qui retient. Son livre, je ne suis pas un très bon juge, n'est-ce pas, en réalité, pour en parler, parce qu'il y a tout ce côté de l'orthodoxie dont j'avoue que je suis très ignorant, n'est-ce pas ? Je crois que ce qui est intéressant chez Matzneff, c'est qu'il s'agit à la fois d'un garçon intelligent, d'un garçon spirituel, si vous voulez, dans les deux sens du mot, étant donné qu'il a d'une part de l'humour et que d'autre part, il a un sens de la vie spirituelle. Et troisièmement, qu'il y a une partie sensuelle qui joue beaucoup dans son œuvre, qui en sera une des raisons du succès, et qui est traitée avec beaucoup de connaissances du sujet, si j'ose dire. Mais je pense que les critiques qui se trouveront devant cet amalgame, sur lequel d'ailleurs je vous redirai un mot ensuite, c'est pas un amalgame, c'est plutôt une juxtaposition d'éléments qui semblent différents à l'homme moyen. Il y aura ceux qui ne s'intéresseront qu'à la question orthodoxe parce qu'ils ne les intéressent que le spirituel, et il y a ceux qui s'intéresseront qu'à l'histoire amoureuse parce que ne les intéressent que les histoires amoureuses. Ceux qui sont constitués de telle façon qu'ils puissent parler d'une façon intelligente des deux thèmes sont, je crois, une minorité. Il y aura toujours quelqu'un qui penchera et qui parlera d'un thème probablement en vomissant l'autre, et de là, des articles de critique qui, je suppose, ne satisferont pas toujours l'auteur.
On a dit qu'il y avait une parenté entre le personnage principal de l'Archimandrite et Costal.
Il y a sûrement une parenté, au fond, n'est-ce pas, ce héros dont je ne peux pas prononcer le nom, je vous avoue que je n'arrive pas à prononcer le nom de Razvratchev. Disons donc le héros, à côté de l'homme qui s'intéresse aux choses spirituelles, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un dragueur. Costas, c'est aussi un dragueur, n'est-ce pas ? Il y a donc deux personnages qui sont de la même famille, et il y a ici et là, très souvent, des réactions que j'ai notées au crayon dans le volume, qui n'ont sûrement pas été inspirées à Matzneff par mon livre, parce qu'il n'a pas besoin de mon livre, mais qui montrent combien ces réactions, avec la différence des générations, puisque je crois qu'il a 30 ans et je n'ai pas 30 ans, et sont exactement toujours les mêmes. Il y a des réactions, des choses où j'ai écrites ou je n'ai pas écrites, où j'ai pensé mille fois, où j'ai vécu mille fois au cours de la partie amoureuse, si on peut dire, du livre. Et donc, ce côté-là est assez proche du personnage de Costas. Il y a un autre côté du personnage, alors du héros de Matzneff dans l'Archimandrite, qui est proche de moi d'une façon beaucoup plus intéressante, c'est une sorte de juxtaposition hétéroclite d'éléments qui, en somme, en principe, se contredisent. Je ne sais pas, vous allez lui passer le micro après moi, je vais m'exprimer probablement assez mal, mais il y a évidemment non pas un amalgame, comme je le disais tout à l'heure, mais une juxtaposition d'un sensuel, d'un cynique, d'un sensible, d'un religieux, juxtaposition qui semble très incohérente. Il y a une page de lui, dont je ne me souviens pas, dans laquelle il explique justement cette incohérence. Or, cette sorte d'apparente incohérence est une chose qui est essentielle en moi et qu'on retrouve dans tous mes livres. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus, Gabriel Matzneff, mais beaucoup plus que l'aspect libertin ou roué de votre personnage et que sa quête d'âme, c'est ça qui m'a frappé chez vous, en dehors même d'autres petites choses, comme l'amour de l'histoire romaine que vous évoquez, etc., que nous sentons ensemble depuis très longtemps. Ce qui m'a frappé le plus comme trait de caractère entre votre héros et moi-même, je ne dis même pas mes héros, mais moi-même, c'est justement ce syncrétisme. Syncrétisme signifiant, pour les gens qui ne le savent pas, enfin, je ne sais pas si ma définition est bonne, la juxtaposition d'êtres ou de personnages ou de dieux dans l'Antiquité tout à fait dissemblables et tout à fait différents qui ensemble font bon ménage. Il y a chez Mazneff, chez le héros de Mazneff, des personnages très différents et qui ensemble font bon ménage. Cette façon de dire n'étant d'ailleurs pas exact tout à fait, puisqu'à la fin, le héros se suicide. C'est d'ailleurs la partie, je dois le dire, qui m'a le moins convaincu du livre. Elle est très courte, il n'y a seulement quelques pages. Elle m'a le moins convaincu. Mais j'aimerais que Mazneff nous parle de ce syncrétisme qu'il y a dans son personnage et qui le rapproche, encore une fois, beaucoup moins de mes héros que de moi-même.
Je dois d'abord dire que lorsque, à 17 ans, j'ai découvert l'œuvre de Monterland, et notamment ces pages de « Aux fontaines du désir » sur le syncrétisme et l'alternance, ce fut pour moi quelque chose de très important, car je m'y découvrais moi-même, n'est-ce pas ? Je crois que les grands textes ont pour but essentiel de vous aider à vous mieux connaître, et l'œuvre de Monterland, dès cette époque-là, a joué ce rôle-là pour moi. Et je crois que cette multiplicité, cette conception syncrétiste de l'existence, est celle de toute une famille d'esprits. Et ainsi, par exemple, je pense que si un Nietzsche, au XIXe siècle, avait écrit des romans, on retrouverait d'une manière plus évidente, et même, je dirais presque, plus choquante, puisque les gens sont choqués par le syncrétisme, plus choquante qu'elle ne l'est dans ses œuvres philosophiques, cette conception multiple de la vie.
Vous venez de citer Nietzsche, je pourrais aussi vous citer Goethe, qui a dit cette phrase « Protée est le symbole de la nature ». Et à maintes reprises dans son œuvre, notamment dans Poésie et Réalité, Goethe, dans la mesure où on peut le comprendre à travers les traductions françaises qui me paraissent peu compréhensibles, je ne sais pas l'allemand, Goethe revient sur la beauté qu'il y a à accepter les diverses manifestations de la vie et à les accepter toutes, si on peut dire, d'un cœur égal. Le protéisme joue un très grand rôle dans l'œuvre de Nietzsche. Maintenant, à ce propos, je vous rappelle, votre héros cite la parole de l'écriture, qui est dite d'ailleurs par le démon, mais enfin, le démon est à vous et à moi une vieille connaissance. « Je m'appelle Légion. Je m'appelle Légion » est une chose, je ne sais pas où je l'ai écrite, mais enfin, je dis toujours de moi « Je m'appelle Légion » sans doute. Pour loin du monde prétendre que je suis le démon, je laisse ça aux spécialistes comme Gilles et autres. J'ai souvent dit, je m'appelle Légion, ça me résume très bien, et j'ai vu avec intérêt que votre héros reprenait aussi cette phrase.
Oui, et c'est peut-être le point sur lequel je me sépare de vous. Vous, Henri de Monterland, vous ne croyez pas au diable. Moi, j'aurais certainement beaucoup plus de mal à croire au Dieu qu'au diable, dont la présence me semble souvent comme ça sous-jacente.
N'y a que Mauriac qui croit au diable.
Disons alors, c'est un point commun, un des rares points communs que j'ai avec Mauriac. Mais, voyez-vous, à cause justement de cette présence diabolique un peu diffuse, je crois que Razvratchev certainement appartient à la même famille peut-être que Kostal, mais je le verrais plutôt dans une filiation qui viendrait, disons, de Manfred, le Manfred de Byron, que personne ne lit plus jamais, qui est un fort beau livre, et surtout peut-être le Stavrogin de Dostoïevski dans Les Possédés. Kostal, finalement, ne se pose pas ce genre de problème, et je suis persuadé que si Kostal avait rencontré Razvratchev, il serait peut-être parfois agacé par ce qu'il appellerait peut-être de la pseudo-métaphysique ou bien des problèmes qui n'existent pas. Pour Kostal, tous ces problèmes n'existent pas. Est-ce que c'est vrai ?
Non, c'est certainement les problèmes métaphysiques. Vous dites, votre héros dit quelque part, je n'ai pas la trip métaphysique, et moi j'écrivais dans un article à propos d'un torero dans Candide, il y a 3 ou 4 ans, j'ai, Dieu merci, je n'ai pas la tête métaphysique. C'est donc exactement la même phrase. Cependant, je remarque, je n'y avais pas pensé, j'avoue, en lisant le livre, que tout de même Costas exerce une œuvre de direction spirituelle sur cette demi-folle qui s'appelle Thérèse Pantevin, et qu'il l'exerce dans un esprit très catholique ultra, puisque c'est janséniste, alors qu'au premier abord, il me semblait que la question métaphysique était tout à fait absente de l'esprit de mon héros et des jeunes filles. En y repensant mieux, je vois tout de même qu'il est lui aussi capable de penser et de parler et de sentir d'une façon très catholique. Donc il n'est pas, même sur ce point-là, il se rapproche encore de votre héros.
Vous venez de prononcer un adjectif très intéressant, janséniste. Je tiens ici à déclarer à ceux des orthodoxes qui ont été choqués par mon livre que je considère qu'il n'y a pas de livre plus janséniste que l'Archimandrite. Car l'Archimandrite, si on le lit dans une perspective chrétienne, dans une perspective orthodoxe et donc chrétienne plus généralement, est un livre tout à fait édifiant. Et je pense que l'on pourrait très bien voir dans l'Archimandrite une histoire qui illustre cette pensée que le refus de Dieu, que le refus de l'unité intérieure, que le refus d'une véritable conversion, d'une métanoïa, conduit obligatoirement au désespoir et au suicide. Et c'est en fait, lorsque vous disiez, Henri de Monterland, que le suicide de Razoratchev vous échappait et que vous semblait pas nécessaire, eh bien, sur un plan profane, effectivement, il n'est pas nécessaire, et j'aurais très bien pu terminer mon livre en montrant Razoratchev en train de se dorer le nombril sur une plage de la Méditerranée. Mais c'est ce en quoi je crois que mon livre est un livre qui s'inscrit dans une certaine tradition du roman chrétien. Le suicide de Razoratchev, c'est la conséquence du rejet de Dieu, et en même temps, il a aussi des ruptures amoureuses, enfin, un tas de choses qui font déborder le vase. Enfin, tout ça, ça va ensemble. Enfin, et pour moi, le suicide de Razoratchev est une nécessité. Mais encore une fois, je ne crois vraiment pas qu'une conscience chrétienne puisse être choquée par mon livre. Et les scènes blasphématoires. On voit par exemple Razoratchev séduire la très jeune fille d'un prêtre, car l'on sait que l'Église orthodoxe ordonne les hommes mariés, ce qui fait qu'il y a des prêtres orthodoxes qui ont des ribambelles d'enfants. Eh bien, cette scène de séduction, et Razoratchev dit cyniquement que le fait que ce soit la fille d'un prêtre redoublé son plaisir et sa joie d'avoir séduit cette fille, eh bien, sont des scènes qui ont choqué et qui, je pense, sont effectivement sans doute très choquantes, mais qui sont nécessaires à la psychologie du personnage. Je demande à ces gens-là de se mettre un instant dans la peau du romancier. Lorsqu'on présente un personnage de saint, et je pense à la figure de mon père Carderi, pour moi, c'est le prêtre idéal, le prêtre qui donne la réponse chrétienne au problème de Razoratchev, le père Carderi, eh bien, lorsque je le fais parler, ce personnage de prêtre, je le fais parler comme un prêtre. Et lorsque je mets en scène un personnage très libertin, débauché, voire corrupteur, délibérément, eh bien, je le fais agir et parler comme un débauché, un libertin, un corrupteur. Il n'y a là rien de scandaleux.
Mais vous savez que c'est une chose qui se reproduit pour tous les écrivains qui ont une certaine force d'originalité. Vous n'ignorez pas que depuis une cinquantaine d'années, je suis confondu avec tous mes héros et qu'on met dans ma bouche des choses que je fais dire par des héros. Il y a eu tout un article dans un des journaux les plus sérieux d'Europe, disons, récemment, dans lequel le premier point était de dire « Le roi Ferrand de la Reine Morte est un salaud ». Secondo, Monterland s'est mis tout entier dans « Le roi Ferrand ». Troisièmement, conclusion, Monterland est un salaud, et l'article partait là-dessus. Vous comprenez, il n'y avait pas de critique dramatique du tout, il y avait simplement deux colonnes d'un très grand journal très sérieux pour dire Monterland est un salaud, et c'est montré par le fait qu'il est le roi Ferrand. Ne vous étonnez donc pas de ces confusions qui sont quelquefois involontaires par légèreté, mais qui très souvent sont volontaires et très, très étudiées entre le héros et certains des personnages, surtout le personnage qui est antipathique.
Naturellement, car dans un roman comme l'Archimandrite, où il y a six personnages principaux, dont quatre sont des gens très bien, qui iront tout droit au paradis, s'il y a un paradis, eh bien, comme par hasard, on va choisir celui qu'on juge le plus noir, le plus antipathique, pour le jeter à la figure de l'auteur. Mais enfin, ça n'a finalement pas tellement d'importance, car je pense toujours à cette phrase que vous avez écrite une fois, Henri de Monterland, et que vous répétez souvent, « Vive le malentendu ».
Je crois que le monde entier, tel que je le vois, et surtout tel que je le vois, maintenant, vit entièrement et toujours sur le malentendu. Alors, un malentendu de plus, me concernant, n'a pas une grande importance. Je pense que Matzev étant un homme d'esprit et ayant de l'humour, le fait que certains de ses passages soient traités avec humour créera contre lui de l'agacement ipso facto, n'est-ce pas ? Il y a évidemment en France un esprit de lourdeur qui est très sensible. Je crois donc qu'il y a des gens qui diront c'est un petit plaisantin en s'arrêtant simplement sur certaines remarques désinvoltes, sur certaines pirouettes, et qui ne verront pas tout le côté sérieux, tout le côté grave et tout le côté de spiritualité qui est mis dans ce livre.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 novembre 1966.